Salut à tous et bienvenue dans Cinéphase. Non, dans Bacast, et oui, vous en croyez pas vos oreilles.
Bonjour.
Donc, on fait enfin un Bacast, ça fait super longtemps.
Le retour.
Alors, le retour. En tout cas, c'est un spécial.
J'ai envie de dire, ils sont de retour.
Fête de fin d'année.
Un mauvais tour.
Putain.
J'ai envie de faire des hommages à l'animation japonaise.
Et donc, Romain et Fabien, pour une fois, ensemble dans un Bacast, c'est, j'ai envie de dire, c'est érotique.
Ça va ?
Ça va, bien.
Pour plaisir,
un plaisir.
On vient vous parler surtout d'un événement, bien sûr, parce que c'est le nouveau film de Mamoru Hosoda qui est Le Garçon et la Bête. Mamoru Hosoda, qui est ce petit gars pour vous ?
Ben, pour moi, c'est un petit peu le renouveau de l'animation japonaise à gros budget, on va dire. C'est le nouveau big boss, on va dire, des gros films d'animation à grand spectacle qui cartonnent. Au Japon,
ouais, et qui cartonne.
Et qui cartonne, surtout, il fait beaucoup, beaucoup d'argent. C'est pas un de ces galériens qui fait des gros films qui se plantent. Non, c'est un mec.
Attention, Galérian, c'est une saga. Hein.
Oui, oui, on a dit qu'on parlait pas d'Otomo.
Non. Lui, c'est un auteur qui fait de l'argent.
Non, on est d'accord que c'est intéressant que tu parles d'Otomo, c'est que tous les anciens, et ça, c'est comme en France où les grands réalisateurs, ils arrivent plus à faire de films. Voilà, avec des gros budgets
très ambitieux et ça marche pas.
Ouais. Et lui, c'est vrai qu'il arrive à donner des. C'est les lettres de noblesse de l'animation actuelle, on va dire. Alors, Mamoru Hosoda, en fait, c'était un animateur clé, donc on a eu beaucoup dans les années 90. Il a beaucoup travaillé pour Toei Animation, donc dans les Sailor Moon,
les films Dragon Ball.
Oui, voilà, c'est vraiment un mec touche à tout qui a même refusé la réalisation du château ambulant.
Il faut le faire, c'est quand même.
Il faut le faire. Il s'est pas entendu avec Papa Miyazaki. Juste avant, il avait réalisé le premier film de Digimon.
Qui est bien.
Qui est un chef-d'œuvre.
Qui est bien.
Juste mais parfait.
C'est-à-dire que Miyazaki ou le Ghibli voient Digimon et ils se disent ce mec peut faire le château bleu.
Je sais pas, peut-être il y avait un peu de politique derrière. Il connaissait le bonhomme, ouais. Il savait que c'était un bon animateur. J'en sais rien. Surtout que.
Non, mais peut-être qu'il voyait la qualité du mec derrière.
Oui.
Ou qu'il était connu dans le milieu.
Alors, dès Digimon.
Un nouveau.
Dès grand. Digimon, alors que la série TV n'est pas du tout dans cet esthétisme, il a son propre truc graphique, c'est-à-dire, vous savez, il épure toutes les ombres. Il oui. essaye d'en mettre le moins possible pour donner une plus grande fluidité dans l'animation.
C'est vrai que l'épure, une fois qu'il va avoir son propre studio
alors là,
les enfants loups, c'est vraiment de l'épure. L'épure
de toute manière, on le voit directement parce qu'en fait, il refuse en 2004 le château ambulant, puis juste après, du coup, il va revenir chez Toei, et puis il va réaliser le sixième film de One Piece. Les amis, le sixième film de One Piece est une pure tuerie. Quand vous voyez la jaquette du DVD qui est sorti en France, quand vous voyez les images, vous allez vous dire, mais c'est quoi ça, c'est une honte, etc. Je me rappelle à l'époque où il est sorti, tout le monde disait, mais je vais jamais regarder ça. Et en fait, je l'ai fait découvrir à pas mal de monde, et à chaque fois, les gens étaient scotchés, parce que c'est un mec qui n'a pas juste un esthétisme assez flashouille, sans trop d'ombre. C'est un gars qui, justement, s'éclate dans l'animation grâce à cette contrainte en moins. Alors, bien sûr, c'est dommage de se dire, pour faire de la bonne animation, il faut que j'enlève des couleurs, il faut que j'enlève des ombres. C'est dommage. Bon.
Enfin,
on va y revenir après.
Il y a un parti pris de ne pas se conformer, on va dire, aux exigences du gros studio, de la grosse boîte qui l'emploie aussi.
C'est ça, exactement. Et le mec, il est OK, c'est mon film.
Voilà.
Et il va vous proposer un One Piece qui, pour moi, c'est en termes d'animation, le meilleur de One Piece. C'est-à-dire que on n'a jamais autant d'enjeux, d'émotions que dans ce film. C'est super fort, super sombre, alors que c'est une couleur vive, hein, il joue toujours là-dessus. Et je vous conseille vivement le film 6 de One Piece. C'est pas juste un long épisode, juste un film HS indépendant qui sert à rien. Non, ça va vraiment au cœur de ce qu'est l'équipe de Luffy. C'est vraiment super. Bon, et après, il commence à faire... Il part sur Madhouse.
Original.
Non, c'est l'adaptation
d'un roman.
D'un roman.
Oh, me faites pas chier. Oh. C'est pas un manga comique.
C'est Noël. La traversée du temps.
Moi je pensais absolument. J'avais totalement oublié la traversée du temps.
Vas-y, la traversée du temps.
La traversée du temps, c'est un film. Alors moi je l'ai découvert un peu plus tard, parce que moi j'avais vu Summer Wars avant, j'avais un peu zappé parce que je sais pas pourquoi il me disait pas ce film. J'avais l'impression d'un film un peu léger et je sais pas, ça m'a pas paru me toucher. Je l'ai vu après, en fait j'ai fait juste une grosse connerie, hein, c'était un
Mais
très grand
tu sais
film.
que moi aussi je suis pas allé le voir au cinéma et je sais plus
C'est
trop
pareil, il donnait pas
pourquoi,
envie en fait.
mais oui, voilà, ça me donnait. Alors que ça avait l'air très beau dans la bande-annonce et tout, mais le fait que je me suis intéressé, c'est que. Bon, parce que c'est une animation japonaise et que je suis un sale otaku de merde, enfin, et surtout parce que c'était le Madhouse, le studio qui produisait. Mais Osoda, moi, il me disait rien, je m'en
Ouais.
foutais un peu.
Et en fait, donc c'est.
C'est marrant parce que, excuse-moi, je te coupe, mais
Vas-y.
j'ai eu exactement la même réaction. Je voyais la fille sur la bicyclette, je me dis, ça
Ouais,
va être encore être un
t'es
truc
pas envie.
nostalgique,
Ouais, c'est ça, un
nostalgique.
slice of
Ça,
life,
voilà,
voilà,
je me suis
bon.
dit, et c'est comme quoi quand on est jeune, on est vraiment con.
Non, mais même maintenant, on a toujours des a priori,
Et
sans maintenant,
il me
ouais,
semble que
de.
c'était sorti avant l'été, juste un truc comme ça, genre le truc qui te donnait pas envie d'aller le voir, ou alors tu
Alors que
te
pourtant.
sens. Alors que.
Et oui, donc en fait, c'est l'adaptation d'un roman, là aussi, effectivement, comme tu as dit, et qui a déjà été adapté plein de fois au cinéma, en série, en télé et tout. Enfin, donc, c'est une espèce d'histoire assez jolie de voyage dans le temps sous fond d'univers lycéen japonais, ou collégien japonais, je sais plus. Et
Ou lycéen, je crois.
en
Oui,
fait, on suit une jeune fille qui, voilà.
qui
Qui
voilà,
voilà. Elle voilà, je
elle
voilà, tu
traverse,
voilà.
elle trouve une noix et voyage dans
Elle
le
trouve une
temps.
voyage ouais, dans le temps. Mais c'est super bien fait, je sais pas, ça serait un peu le un jour sans fin japonais, je sais pas pour dire un truc comme ça, un truc assez.
Ça prend des airs de
Ouais,
conte,
voilà,
effectivement.
c'est ces films de voyage dans le temps où en fait on utilise le voyage dans le temps comme pour être une sorte de conte ou de réflexion sur la jeunesse et l'adolescence
Ça,
de la
j'ai
jeune fille, ouais,
l'adulte aussi.
voilà. Et c'est assez beau et ça marche très bien et c'est un très beau film. Et c'est même arrivé que tu prends un exemple en disant non, mais je veux pas faire un truc niais, je veux faire un truc comme. La traversée dans le temps, en fait, c'est même un truc pour dire, ouais, c'est un bon.
Du temps.
Ouais,
Oui,
du temps.
commence pas à changer les
Alors,
titres.
c'est
Romain,
vraiment.
Romain, Romain,
Du
je pense.
tigre et du temps,
Comme du tigre.
je rajoute les trucs.
C'est vraiment le film qui est l'équilibre parfait entre justement, ouais, toutes ces séries de teenage japonaises, là, maintenant, il y a une série ou un film, il faut absolument qu'il s'adresse à des adolescents à l'école, et de la
Le
science-fiction.
concept de SF qu'il y a derrière, oui,
Voilà,
tout à fait.
et c'est. Original déjà dans sa façon d'être amené, ce voyage dans le temps, et les personnages sont extrêmement touchants.
Et puis c'est bien, la transition est assez bien faite, puisque encore une fois, il bossait avant sur des grosses franchises d'animés. Là, il prend l'adaptation d'un bouquin connu, d'un best-seller, donc c'est une transition parfaite entre finalement des œuvres préexistantes et des œuvres qui portent entièrement sa sensibilité, on va dire son autonomie artistique à lui en
Mais
fait.
quoi qu'il ait fait, qu'il ait adapté ou qu'il ait fait quelque chose d'original,
Oui, il s'en empare à chaque fois. Oui,
exactement,
il s'en
c'est
empare,
son film,
bien
c'est
sûr,
son
bien
œuvre.
sûr.
Kenji-san, kakugo wa aru kai? Hai.
これはテロだよ。ほっとくと世界は崩壊する。
下手をしたら死人が出るかもだね。
助けて。
無理です。
何を始めようってのよ。
ここで頑張らなくっていつ頑張るんだい。
おばあちゃん。
僕やってみるよ。
私たち家族の底力を見せてやろうじゃない。
Ensuite, il arrive avec un truc, mais un raz-de-marée. C'est-à-dire que c'était un tremplin. La traversée du temps, qui est un chef-d'œuvre, est juste en fait un tremplin. Il arrive avec Summer Wars.
Alors ça.
Et alors ce film-là, il a.
La vache.
Il s'est emparé du monde entier. Et c'est surtout parce que c'était un film à gros budget. Donc.
Ça se voit.
Toujours Madhouse, hein. Là, du coup, Madhouse, tu as dit, vas-y, prends, t'as les pleins pouvoirs, mec, c'est bon. Je dis, bah tiens, vas-y, parle-moi, parle de Summer Wars.
Bah attends, je l'ai pas vu depuis la sortie en salle, alors si je me souviens bien.
On avait parlé dans le cinéphone de l'époque.
Oui, mais attends,
C'est à l'époque, il n'y avait pas Bacast.
c'était il y a plus de 5 ans.
Ouais, pour raconter l'histoire, c'est un enfant qui part en vacances avec
Oui, voilà.
une autre lycéenne, et puis
puis bon, il y a cette
il y
histoire
a une guerre numérique
d'un
dans un
numérique
autre
dans le
monde.
monde de Oz.
Ouais, voilà.
Donc lui, avec son avatar, donc le lapin, là, j'ai oublié son nom, là,
King Kazma.
King Kazma, donc il va partir. bah, finalement dans cette guerre virtuelle avec la fille aussi qui a elle-même son avatar.
En fait, l'idée c'est que c'était il est entré dans une famille impériale, et que toute cette famille-là, elle allait être connectée à cette guerre en question.
C'est ça. Et puis bon, bah c'est les allers-retours tout le temps entre sa vie au sein de la famille de la fille et cette guerre virtuelle, enfin cette guerre 2.0 on va dire, dans lequel il y a des enjeux.
En fait, t'as un drame familial, quasiment au zoo, quasiment. C'est là où on voit le côté où il va se rattacher au cinéma live traditionnel et mélanger, croiser avec une thématique super présente dans l'animation japonaise, qui est l'univers d'internet, les avatars, la guerre de la science-fiction moderne.
Il y a un craquage total au niveau des persos.
Et au niveau du design aussi. Parce que quand tu es dans le monde de Oz, t'as des designs avec des traits super épais, des personnages avec des avatars complètement loufoques.
Et des traits rouges. Moi, c'est ça qui m'avait marqué. Pour une fois, les mecs disaient, je ne vais pas faire des traits noirs, je vais faire des traits rouges.
L'apport numérique... et en fait dans l'univers d'Oz,
dans la GGS. Mais ça fait sens en fait,
et les CGI voilà font sens, c'est sublime du coup, parce que c'est là où ils doivent être, et toute l'animation traditionnelle revient là où on est dans la famille, dans cette super grande baraque qui refait penser effectivement au cinéma d'Ozu, vous savez, avec les caméras posées sur les tatamis quasiment, où on les suit, c'est des grands repas,
des plein de gens,
il y a tout le monde qui bouge, enfin c'était incroyable. Alors bien sûr, toujours dans les pures des ombres, hein. Mais voilà, il est généreux sur tout ce qui est animation, et je pense que c'est vraiment ça qui l'intéresse, lui, c'est de faire bouger les gens, parce que le mouvement est une expression, tu vois.
C'était un sacré choc, ça, à l'époque. Hein.
Oui.
Parce qu'il était là, moi, quand j'avais vu le film, et c'est vrai que c'était une plongée totale dans un univers que t'avais jamais vu.
Ah oui,
en mettant en contraste cette histoire de famille qui encore une fois est une chronique adolescente,
oui,
à notre échelle, mais que dès que tu bascules dans ce monde virtuel, enfin dans ce monde 2.0 où tout prend des proportions hallucinantes, le contraste il est magnifique. Et si je me souviens bien, il y a la famille vers la fin qui dit allez-y.
Ah oui, c'est ça.
Non, mais c'était, il y avait un côté épique mais ramené au quotidien en fait.
Oui, mais c'était purement épique. C'est
vraiment...
on avait dit que c'était un film somme, tu sais, parce qu'il y avait vraiment beaucoup de choses. Ça empruntait à plein de genres, de styles différents, et c'était vraiment son film.
Et le film Digimon, je pense, a été utile en guise de peut-être préparation inconsciente
De manière, toute cette génération là des années 2000 de réalisateurs sont quand même attachés à l'enfance, à l'adolescence, toujours au récit initiatique. Qu'est-ce qui va faire que tu passes à autre chose? Et
j'ai juste respiré.
D'accord.
Non, c'est ça. Parce qu'il faut, c'est important.
C'est une grande pensée.
Mais avec respiration, parce que sinon je ne peux pas vivre. En fait, sans respirer. Ça, c'est important.
J'ai mon smartphone qui me répète qu'il faut que je respire.
Respire. Non, en fait, j'avais besoin de. Oui, j'avais besoin de dire quelque chose. Oui.
M'exprimer.
C'est... Ce mémoire, je n'avais pas autant touché que vous. Enfin, j'avais trouvé ça très bien, mais pas au niveau des paprikas, etc.
Si je me rappelle, on l'avait vu en presse ensemble, deux mois avant. Moi, j'étais comme un dingue, parce que je pouvais pas en parler et tout ça. Et puis toi, tu me suis dit, calme-toi. Mais moi, j'avais envie de te buter. Mais putain, j'ai envie d'en parler avec toi, j'ai envie de partager cet amour.
Non, je trouvais ça sympa. Mais en fait, je trouve que c'est après que j'ai trouvé que c'était un auteur, en fait. Après les enfants. Alors, les enfants,
tiens, donc. transition humaine, tu vois.
Là, il a trouvé un truc. Là, d'un coup, tu vois, ça y est, c'était un artiste. Alors qu'avant, c'était un très bon réalisateur d'animation.
C'était un bon filmmaker. Après, il va créer son propre studio, donc le studio Chizu, qui est un peu la mode à cette époque-là, où tous les nouveaux réalisateurs créent leur propre studio. Et donc, on a eu plein de studios, là, depuis Chizu, qui se sont créés. Donc, c'est pas mal, parce que ça donnait un nouvel élan dans l'animation. Parfois qui n'était pas si bon que ça, mais bon, au moins on a eu des choses nouvelles, et donc il est son propre maître, et c'est le CEO de Chizu, et avec ça il va faire Les Enfants Loups. Vas-y.
Mais Les Enfants Loups, là c'est intéressant.
J'ai rien à faire.
Alors, je sais, parce que là c'est le film, c'est la bête noire de Fabien, c'est le mouton.
J'ai même pas besoin de le dire, parce que Philippe s'est tourné directement vers toi.
Je me rappelais même pas.
Alors t'es en noir pour ça d'ailleurs, ça peut montrer que.
Je vous invite à aller voir le backcast Les Enfants Loups, c'est vrai qu'on l'avait chroniqué avec Fabien.
Jetez-moi des pierres, c'est bon.
En tout cas, Les Enfants Loups est son premier film, donc vraiment indépendant. Et c'est un film qui a été un énorme succès en France, mais vraiment pas que par les fans d'animation, Moi, je sais que
il est sorti de dessus d'après.
Un petit peu le milieu de la distribution en salle pour les des films pour les enfants, on va dire, enfin, dirigé pour les enfants. C'est un film qui a été énormément vu par les familles et par les enfants au moment de sa sortie.
Et pourquoi ?
Et qui a eu un bouche à oreille parce que le film s'adresse
énormément. Il y avait une bonne promo
et bonne critique, et le film, bonne promo.
Le film s'adresse à tous les petits bobos qui veulent réfléchir, dire oh, l'animation, c'est aussi quelque chose de très intellectuel. Oui, et aussi les enfants, tellement c'est mignon, c'est dynamique.
Il y a beaucoup de séries, beaucoup de séances pour enfants, de séances à 10, 11 heures du matin. Mais 6 mois après, le film continue.
C'était un énorme succès.
Bah, thématiquement, c'est une œuvre qui est parfaite pour le public familial.
Et oui.
Et d'ailleurs, c'est après ce film-là que d'habitude, il était quand même distribué par Kazé, Eurozoom, donc des petites boîtes de distrib en France, en fait, des grosses boîtes de DVD, d'édition DVD, tout ça, mais qui ont.
Eurozoom est une petite boîte de distrib à l'époque.
Distribué dans 5-6 salles.
Qui est spécialisé.
Mais là, ils ont. Ça avait tellement marché que du coup, ils avaient pu diffuser ailleurs. Et c'est après ça, le garçon
et la bête. Summer Wars a été un tremplin.
Oui, mais du coup, le garçon et la bête est passé dans les mains de Gaumont parce que.
Les boules.
Et je pense que c'est dû aussi au succès national des enfants loups les gens ont entendu. C'est-à-dire qu'il y a des distributeurs qui ont dit ok, ce mec il est intéressant, il faut qu'on s'intéresse à ce mec-là.
On va le prendre et puis le resume.
L'impact des enfants loups a été que on sort au soda de la niche des fans d'animé. C'est-à-dire là, c'est pas du Walt Disney, mais c'est limite. Ce mec-là, on va le placer comme étant le spécialiste du film d'animation japonais familial. C'est-à-dire le mec qui brasse des thèmes qui vont toucher tout le monde. Et c'est vrai que sur ce
moment-là. Oui, mais pas non plus accessible.
Non, pas non plus accessible, mais exigeant. Tu vois. Ce que tu pouvais pas faire sur Summer Wars. Mais sur Ameyuki, tu peux le faire.
En fait, il a toujours parlé de la famille. Excuse-moi. Dans Digimon, avec les frères, dans. Le One Piece, c'est vraiment une famille en fait, l'équipage. Tu as bien sûr Summer Wars, ça a toujours été son fer de lance, la famille. Et là, par contre, il est vraiment dans l'intimité de la famille. Il va voir, en plus, c'est un drame qui se voit de plus en plus au Japon, qui ne se faisait pas avant, c'est la femme isolée, la femme toute seule.
Retour à la nature aussi.
Oui, le retour à la nature.
De la ville à.
Ouais, c'est bon,
monde
si
rural.
Je peux retourner à la nature.
c'est mine de rien, et
c'est vrai.
D'un coup, il assume encore plus son côté Ozu, référence au cinéma live presque. Oui.
Mais il y a beaucoup de Totoro dans ce film parce qu'il y a un aspect fantastique.
C'est vrai que le film avec les loups-garous de Ozu était génial. Le film de loups-garous de Ozu, poil poussé sous une pluie d'automne, c'était génial.
Film en frontal, le loups-garous aussi.
J'ai une dent qui pousse.
On va lutter, c'est en costume, en loup-garou.
Regarde,
c'est après l'huile là.
Il faudrait le faire. Regardez, c'était un poil. Je n'avais pas ce poil il y a quelques jours.
J'ai pas vu ce film. Ne spoil pas, s'il te plaît.
Ce soir, c'est la pleine lune. Buvons un saké.
Faut aussi que je vois son space opéra.
C'était le Constellation Tardive.
Arrête, les gens, ils comprennent pas.
C'est une météorite, pardon.
Parce que Ozu était un grand réalisateur qui axait son cinéma sur la famille, mais vraiment dans l'intimité de la famille.
Avec des trites français un peu.
Et des bouteilles de Kirin. c'était un des premiers réalisateurs à utiliser le placement de produit.
Réalisateur alcoolique.
Bon.
Enfin bref, voilà, Les Enfants Loups est un carton, il est à fond sur.
Pas du tout, pas pour parler d'histoire du coup.
Bon, Les Enfants Loups, c'est une.
Bon, c'est une fille qui a couché avec un loup-garou.
Ouais, et puis elle a.
Pas un loup-garou.
Un homme loup.
Elle a accouché de deux enfants qui peuvent se transformer en loup-garou. Voilà.
Et c'est une très belle métaphore sur l'animalité des enfants. Enfin, sur
oui,
ce qui
ah,
fait
oui,
le rapport. Et pour les gens qui ont eu des enfants.
L'instinct.
Et là, je suis désolé, mais je pense souvent aux enfants loups parfois en ce moment.
Oui, non, mais.
Parce que tu vois bien qu'en fait, t'as toujours Enfin, c'est vrai en fait. Tu vois, avant entre l'animal et l'humain, en fait. Et
avant que l'enfant soit sociabilisé, c'est l'instinct qui domine.
Tu vois,
l'évolution du caractère.
Et ça, c'est très beau et c'est très bien fait dans les enfants.
Il y a l'évolution du caractère, puisque. Oui, parce que on a tous vu les enfants se ressembler en loup. Non, mais tu as raison, mais c'est vrai que ce qui est important aussi, c'est l'inversion des caractères. Parce que la petite fille, si je me souviens bien, était assez sauvage, gamine, et l'autre, le fils s'était posé, alors qu'en grandissant, les parcours.
Comme quoi, rien n'est acquis.
Voilà, les parcours se croisent et. Les individus changent en fait.
Et encore, c'est un regard sur l'adolescence, comment il faut canaliser les enfants en fonction de leur caractère. Il n'y a pas une loi qui dit toi tu dois être comme ça et comme ça.
Non, il n'y a pas de prédéterminisme en fait.
C'est ça.
Rien que ça, c'est très fort.
Tu dis ton mot ou le...
Non, non, mon mot déjà est génial, mais le sens du film est, non, est vraiment super. C'est super,
c'est le film, il est passé sur Arte récemment, oui. Il y a un an, je crois, sur Arte. Donc c'est qu'il est quand même rentré dans les mœurs, il y a une espèce de... Enfin, je sais pas, tout le monde l'a adoré ici.
Oui, tu vois, même moi qui suis pas fan, je dis aux gens, regardez-le, putain, c'est immanquable.
Par contre, là, on a toujours le design de Sadamoto, hein, le chara-design d'Evangelion qui avait travaillé sur Summer Wars. Par contre, c'est beaucoup plus épuré encore, même les traits des fois ils sont un peu absents, c'est incroyable et ça marche quand même,
c'est vrai, hein. Et c'est là où il commence à faire des trucs très bizarres en réel, notamment son délire avec les plans séquences,
oui
et les panneaux
et le POV,
quand il court dans la forêt, ouais.
Non, il y a ça, mais il y a aussi, tu sais, il y a une scène qui est très connue du coup, qu'on a beaucoup parlé, qui est une scène où en fait il fait un panneau, donc gauche droite, ouais, plusieurs fois, et en fait le temps passe dans, en fait tu passes d'une classe à l'autre, et du coup tu les vois au collège, après au lycée, etc., et tu vois le temps qui passe. Et ça, c'est un truc qu'il a vachement utilisé et qu'il va réutiliser de manière encore un tout petit peu plus complexe dans Le Garçon et la Baie. Donc tu sens que là, il est en train de trouver son style.
Transition.
Kyuta wa ichi kara omae ni narau tsumori nande. Oya wo obu akambou no yon ni.
Akambou? は自分じゃ一人前のつもりでいる。今はまだ誰かの助けが必要なんだ。
Donc, le garçon et la bête.
Et la bête.
Bon, on le dit. On n'a pas du tout aimé ce film. C'est...
Non, moi je m'en vais.
Alors, encore un chef-d'œuvre. Mais voilà, on mâche pas nos mots. Encore un chef-d'œuvre de Soda, ce mec. Marche que sur des chefs-d'œuvre. Quoi qu'il fasse, un caca, c'est un chef-d'œuvre. Voilà,
je suis obligé d'attendre fin 2016 pour pouvoir faire mon top 2016. Alors qu'on a vu le film en 2015. C'est magnifique. C'est magnifique.
C'est un super film. Alors là, du coup,
ça va sûrement être une grosse sortie parce que Gaumont va pas, laisser passer un truc pareil. Enfin, c'est très.
Donc l'histoire, un pré-ado. Ouais, elle est plutôt pré-ado, vraiment en manque de repères dans notre monde, se fait recueillir par un monstre, une bête, qui vit dans l'autre monde, dans le monde des bêtes, qui est assez étroitement lié au nôtre.
D'ailleurs, c'est étroit le passage.
Exactement. Sans allusion sexuelle. Les passages sont toujours étroits. Du coup...
C'était pas sexuel.
En fait, il va y avoir... alors, Siamé et Yuki, donc les enfants loups, partaient sur plutôt l'aspect maternel de la famille. Là, c'est l'inverse, en fait. Et là, c'est l'inverse. C'est l'aspect paternel.
Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'animal chez un papa, en fait?
Il y avait le shoujo, là, et maintenant, il y a plus le shonen. On parle là-dessus, et comme par hasard...
C'est toujours sur l'éducation d'un enfant et le rapport entre
la bestialité et l'humanité.
Mais sauf que là, la thématique est inverse. C'est autant on commence avec un instinct et on doit se civiliser, autant là... C'est même si on doit se civiliser, on doit aussi garder son instinct. Et là, il est éduqué grâce à l'instinct. Il apprend dans le film il apprend à s'éduquer en instinctivement, en répétant les gestes de son maître. Et après, il réapprend à.
Et comme
à
dans Les Enfants Loups.
Il fait un mélange des deux.
Ouais. Et Les Enfants Loups et Le Garçon et la Bête sont vraiment deux films connectés.
Ah oui, c'est un diptyque sur l'éducation japonaise.
Comment vous y allez?
C'est
ce qui est plus fort, je trouve, personnellement, moi, dans le Garçon et la Bête, c'est que tu as tout le récit.
Parce que nous, c'était pas fort.
Non, parce que les enfants aussi.
Non, mais c'est que tu as
tout. Non, merde.
Tu me casses. Il avait pas aimé le fait qu'elle soit enceinte à 17 ans, la fille.
Irresponsable.
Les condoms, ça existe.
Excusez-moi, je suis féministe. Je supporte pas le fait que la meuf elle soit tombée enceinte juste après un rapport avec un gars à qui elle a donné des cours de maths. On a besoin d'un récit. Mythologique, d'un récit d'initiation, et c'est pas avec le dernier Star Wars qu'on va renouveler ça. Voilà, non, tu vois, on a besoin d'un concept.
Le point Star Wars, c'est le moment.
Non, mais on a besoin
d'une nouvelle
univers. On a besoin d'un héros neuf, dans un univers neuf, avec des problématiques neuves, qu'on plonge justement dans ce récit d'initiation. Qu'on plonge dans ce récit d'initiation shonen. Je n'ai pas le cul de revoir Son Goku. Non, là, on a un nouveau personnage.
Mais c'est Dragon Ball, on reprend cette
idée-là. Mais dans un concept nouveau.
La tendance actuelle, c'est qu'on fait une sorte de revival du shonen, mais en cassant un peu les codes, tu as One Punch Man en ce moment qui vraiment casse le code du shonen en étant un vrai shonen.
Ça marche bien, ça, en
plus. Ouais, et puis c'est vraiment intéressant. Et tu as le garçon et la bête qui n'est pas un shonen classique, qui part plutôt sur une sorte de mix, encore un film somme où tu vas voir plein de choses.
Ça mixe plein de choses, moi, du
cinéma. C'est pas dans le shonen que tu vas voir une romance pareille, par exemple. Non. Tu vois, c'est, bah, t'as plein de choses qui se greffent.
Il y a une partie éducation, il y a la partie Dragon Ball.
Et toi, même le dernier film Naruto, essayez de partir sur d'autres petites choses comme ça.
The Last ?
Ouais, non.
Boruto ?
Non, c'est The Last, oui. Non, The Last, oui. Il essaie de pas rester que dans
Burrito. Hein, Burrito.
Ça c'est petit.
Arrive au Mexique.
Non mais si tu veux dans Le Garçon et la Bête, c'est que la romance n'est pas stupide, c'est une romance aussi qui a un côté qui a un côté d'éducation. La fille restructure le mec intellectuellement, parce que le mec a maîtrisé son instinct, maintenant il est obligé de restructurer son intellect, et le rapport aux figures paternelles est super intéressant parce qu'il y a son père dans le vrai monde. Enfin, le monde des humains, et la figure paternelle de la bête, et tu as les deux qui se
superposent. C'est très riche, en fait.
Ce personnage,
il se passe beaucoup de choses dans le film.
De la bête est incroyable. Oui. C'est un personnage très brut de décoffrage, comme on en a beaucoup. Voilà, c'est ce que serait devenu Son Goku dans ce monde-là, tu vois, par exemple. C'est un mec qui est que dans la force, non, il faut frapper, et puis il faut picoler, voilà.
Mais qui lui-même a son arc, a quelque chose à accomplir dans ce film-là, tu vois, c'est pas un mec qui est statique.
Et il se bat, on suit ce mec alors que son ennemi, qu'il respecte beaucoup, est quand même la figure, on va dire, céleste de ce monde, c'est-à-dire que c'est un mec qui a les têtes sur les épaules, qui est très intelligent, très fort, voilà.
C'est plutôt un alter ego, c'est plutôt un alter ego adversaire plutôt qu'un ennemi. Je trouve pas qu'il
est. Non, c'est pas un ennemi, c'est un adversaire.
Parce que pour eux, c'est un truc naturel, c'est un cheminement naturel. Cet affrontement est un cheminement naturel.
Oui, mais tu te dis, je veux pas pour cette ville ce mec. L'autre qui a plus la tête sur les épaules.
C'est des concurrents en même temps.
Qui est beaucoup plus politique, beaucoup plus posé. Et c'est intéressant quand même d'être de ce côté-là, au contraire.
Moi, il y a un petit truc qui m'a gêné, mais c'est la toute fin, en fait, parce que quand une fois le film est très riche.
Pas de spoil, s'il te plaît.
Il se passe beaucoup de choses, donc je ne spoil pas. En fait, je trouve que la fin rentre dans un cadenas classique de film d'animation japonais.
Canva.
J'ai dit cadenas. Classique. Classique de, tu vois, c'est-à-dire, bon, alors comment dire ça sans spoiler. Ça rappelle des films d'Otomo, des films de Rintaro, enfin plein, ces films un peu cette explosion du dernier acte, tu vois. Et je l'ai trouvé
normalement dans l'animation japonaise,
je l'ai trouvé pas, je me suis dit, à la limite, je sais pas si c'était utile.
Ah, tu as trouvé trop évident.
Ouais, trop évident, et je me suis dit peut-être. C'est la seule fois où je pense qu'il est pas encore au niveau de Rintaro ou d'Otomo ou de Miyazaki. Oui. Parce qu'au final, il trouve une idée qui est pas mal. Il essaye de rendre ça assez poétique par rapport à juste un déluge explosif, à une force d'apocalypse. Mais je trouvais que, au final, c'est classique, ça. C'est super bien fait.
Parce qu'on est dans la génération post-2000. Il faut pas oublier que les univers du réalisateur de Patema,
j'avais pas dit, mais aussi Satoshi Kon, évidemment, tu vois, pas pris.
Oui, Makoto Shinkai, la Café Agartha, de Mamoru Soda, c'était quand même des univers beaucoup moins sombres, beaucoup moins pessimistes, d'accord.
Oui, bien sûr.
C'est moins torturé dans le scénario et même dans les cadres, les personnages.
Ça faisait longtemps qu'on n'était pas revenu à un univers comme ça, ou avec une espèce d'explosion qui est très classique
mais
qu'on n'avait pas vu depuis on n'avait pas vu un truc aussi
toute la vague extrêmement sombre et violente, Otomo, Rintaro, Kawajiri, etc. Il faut faire une croix dessus maintenant. Ces mecs-là n'arrivent plus à faire de film.
Là, ils s'en rapprochent, tu vois. Le dernier acte est très proche de ces autres types de films, mais je sais pas, je me suis juste dit, bon, c'est pas encore assez.
Moi, je trouvais que ça faisait assez sens dans le cadre d'un récit d'initiation martial, en tout cas.
Oui, ça faisait sens.
Parce que c'est vraiment le cheminement logique. Oui. Et c'est vrai que là, je pense qu'il a cherché une alternative, une solution spectaculaire pour rendre le truc grandiose, pour pas finir son film sur, bon, bah, vous allez voir le super affrontement dans la suite je vais faire. Le mec, il va au bout de sa thématique et du cheminement. Martial de son personnage.
C'est juste que si t'as vu plein d'autres films, tu sais que.
Moi, je trouve ça super.
Moi, j'ai bien aimé, mais je comprends ça bien. La limite de ces univers qui sont sans trop d'enjeux.
Surtout quand tu vois ce qu'il y a d'avant, c'est-à-dire que des choses incroyables, genre effectivement la relation avec la fille, quand il réapprend. Il y a un moment donné où il fait des panneaux circulaires là justement.
Ah voilà, pour faire passer le temps et
putain,
tout.
C'est génial. Il y a une scène où il te fait ça en plan séquence où il va se taper contre des mecs, il emmerde, il te fait ça hors champ et tu les vois après se barrer. Tu te dis mais il est en train de trouver son style ce mec. Ça devient vraiment olympique.
Mais les environnements aussi, ils changent pas mal. C'est vraiment agréable.
Mais c'est vrai que maintenant, lui, il fait partie d'une génération où le côté spectaculaire doit passer par des images plutôt éthérées que par quelque chose d'organique ou du tout qui supporte.
C'est plus lisse. C'est vraiment plus lisse.
Mais bon, c'est aussi le consensus par rapport à un film comme ça qui est censé être une œuvre familiale.
Ah oui, bien sûr. Voilà,
Mais c'est intéressant. Tu sais, c'était Del Toro qui... parce qu'il faut toujours parler d'un modèle Toro dans toutes les émissions.
Tout à fait.
Donc, il y a un modèle Toro mexicain, Burrito, on revient là-dessus. Non, en fait, il parlait de Twitter.
Transition Man.
Il parlait de Twitter, il est sur Twitter maintenant. Et ça n'a pas d'intérêt ce qu'il dit. À un moment, je ne sais pas pourquoi, il s'est tapé plein de films d'animation japonais. Mm-hmm. Et il avait fait une micro-critique de tweet de tous les films de Satoshi Kon. Mm-hmm. Donc, il a dit, ouais, ça c'est génial et tout. Et il a dit, voilà, Satoshi Kon, c'est un peu le dernier grand maître du cinéma d'animation japonais. Comme ça, un truc dans ce style-là. Et des mecs lui ont répondu, on dit ouais, mais il y a quand même Osoda et tout. Et Osoda, il a dit, mais c'était avant Les Garçons et la Bête, pas encore,
oui.
Mais proche de devenir un sensei. Enfin,
Il faut juste, au bout d'un moment, c'est bien, hein, il a une vraie, un vrai fil rouge dans sa filmographie. Il va falloir qu'au bout d'un moment, il le casse.
Ouais.
Qu'il casse un peu cette image, peut-être, sauf s'il n'a pas envie, hein. Mais peut-être faire un truc plus fort, plus fou, j'en sais rien. Mais il ne peut pas rester que dans de la famille tout le temps. Il ne peut pas rester que dans de l'émotion pure comme ça tout le temps. Il faut peut-être qu'il se lâche un petit peu. Par contre,
des trucs avec des bêtes,
techniquement, rien que les premiers plans, quand il les voyait, les plans de foule, etc. Oh, ça vous rend dingue.
Les plans de Tokyo, là.
Mais c'est incroyable. C'est trop beau. Je n'avais pas ressenti cette émotion dans l'animation depuis Le Vent se lève. Où on voyait des c'était encore plus beau dans Le Vent se lève, oui. Parce qu'il y a vraiment des ombres et des designs quand même plus léchés, mais on sent la masse qui bouge en 2D, ça fait plaisir. Il y a de la 3D aussi dedans, qui est importante, mais ça fait trop plaisir. Vraiment, ce film est vraiment techniquement clean.
Ah non, c'est
super. Et pareil, l'épure du design, que je trouve quand même mieux que dans Les Enfants Loups, marche bien. Les couleurs flashouilles marchent bien, parce qu'en plus les couleurs flash dans le monde des bêtes,
mais ça se passe beaucoup à Shibuya.
Est très différent de Shibuya.
Lumineux et.
Oui, mais les couleurs sont plus sombres à Shibuya, justement.
Ouais, tu vois, je trouve que le design.
Oui, voilà, t'as des flares, t'as des.
C'est normal, quoi.
Des lumières, mais t'as un aspect réaliste beaucoup plus sombre.
Il capte une ambiance urbaine qui est spécifique à cette ville.
Voilà. Alors que l'ambiance de la ville des animaux.
C'est un truc plus coloré.
C'est du fantasme.
Mais ce qui est énorme, c'est qu'effectivement, tu parlais du design. Moi, je trouve que les personnages ont une forme d'élasticité qui convient parfaitement, justement, à la thématique martiale de cette histoire. Quoi. Je reste vraiment bloqué.
Mais tu sais, je vais dire maintenant, si tu fais un film de cette qualité-là, mais avec un design. Je dis pas que le design n'est pas bien, hein. c'est très bien d'avoir les pures comme ça, c'est un style. Mais si tu veux, si jamais tu veux revenir à des designs des années 80-90, qui sont quand même beaucoup plus fermés dans les traits, des ombres, beaucoup plus d'ombres, des fois 3-4 couleurs rien que pour la peau et la même chose pour les vêtements, ça coûte beaucoup d'argent. Et un mec comme Takashi Koike, qui a fait Redline, il a mis des plombes à le faire pour Madhouse, et il s'est complètement vautré. Parce qu'il est très gourmand en animation et aussi en design. Du coup, ça fait quelque chose de très fouillis, c'est magnifique. Mais je pense que maintenant, les studios vont être très frileux à cause de ce cas-là, parce que ça a coûté une blinde, ça n'a rien rapporté, alors que le film est un pur chef-d'œuvre.
Et Steam Boy aussi, ça n'avait pas du tout marché. Steam Boy aussi, ça n'avait pas du tout marché.
Oui, alors Steam Boy, c'est encore pire, parce que ça a coûté... Je crois qu'à l'époque, on était dans
le plus gros budget.
Le plus gros budget d'animation.
C'était un truc de fou, hein. Je veux dire, ils ont fait péter le... servir sur celui-là.
Mais pour Steam Boy, on est... Pour moi, j'adore Steam Boy, mais Otomo était déjà un petit peu dépassé concernant son propos. Je pense qu'il était quand même un petit peu enfermé dans sa production, parce qu'il y a beaucoup de choses qui étaient intéressantes, notamment que tu vois en générique de fin, qui auraient pu être exploitées.
Et il y a eu 10 ans de développement aussi.
Ah oui, mais...
Mais Redline, le problème, c'est aussi parce que c'est très indé. Enfin, le mec, il... Un mec comme Kokovey ne pourra jamais faire un succès critique et public.
Non, bien sûr.
Le mec, il est trop à part. C'est comme dire, il faudrait que... Je sais pas, que Dario Argento cartonne et fasse un grand succès.
Il faudrait qu'un mec comme Koike, il fasse un truc mainstream.
Voilà.
Oui, je suis d'accord. C'est pas dans son style, ça marcherait pas.
Sur Steam Boy, on parle du mec qui a juste fait Akira. Donc, à un moment donné, le mec, tu ne peux plus. Quand tu fais un film comme Akira, tu es déjà ringard dans ce que tu pourras faire après. Parce que tu as atteint un tel palier sur une seule œuvre, en termes d'animation, en termes d'exigence scénaristique, en termes de symbolisme, que après, tu ne peux faire que des œuvres, soit qui recyclent des choses, ou soit qui vont être que des démos techniques. Et Steam Boy, moi je trouve que c'est juste une démo technique, hein, parce que moi c'est un récit qui me touche pas du tout. Hein.
Moi j'aime bien ce film, hein. Bon, mais bon, c'est vrai que c'est bon.
Voilà. Non, c'est une petite dérive. Oui.
Ouais. Donc, Le Garçon et la Bête, allez le voir.
Moi j'y retourne.
C'est sublime, moi aussi.
J'ai trop envie d'y retourner, j'attends que ça, moi.
C'est vraiment super, je pense qu'il y aura une vraie distribution.
Et on a besoin d'un film comme ça, on en a... ça fait du bien, oui. Franchement. Moi, voilà, c'est le vrai récit mythologique, la vraie aventure qui t'emmène loin et avec des choses fraîches, quoi. Alors, choses
je pense que le film sera un petit peu plus bâché par la critique que les Enfants Loups, parce que
il est un peu plus japonais, classique, il rentre plus dans les...
c'est de la baston, quoi.
Il y a de la baston, il y a du shonen.
Oui, mais il faut pas s'en excuser.
Il y a un petit peu plus d'archétype, on va dire.
Il faut pas s'en excuser. Non, c'est très bien, c'est super. On a juste marre de faire des films posés juste pour flatter l'intelligentsia. Maintenant, on peut faire passer plein de choses par le récit.
Moi, j'ai pris beaucoup plus de plaisir avec ce film que dans Les Enfants Loups. Que j'adore énormément, oui, donc aussi, tu vois. C'est pour te dire, ce film il est vraiment fun.
Oui.
Non mais tu vois, j'ai un conflit parce que Summer Wars a été tellement innovant que celui-là, je sais pas comment le positionner encore, tu vois, j'adore les deux, quoi. Émotionnellement, Le Garçon et la Bête est plus fort, tu vois.
Mais Summer Wars reste mon film préféré de
ça. Mais Summer Wars, c'était tellement la révolution quand t'as vu ça, tu fais...
Non, Summer Wars, il est vraiment sensationnel. Mais parce que c'était pas Chizu, il y avait toujours le consensus graphique entre Madhouse et lui, tu vois, donc... là, comme il a les pleins pouvoirs, peut-être qu'il se trouve pas encore.
Je pense qu'il trouve un truc.
Il a son truc, mais. Il
trace son sillage.
Voilà, il le trace, mais à la fin, il y aura quelque chose. À la fin, il va vous proposer. Mais ce mec-là, il va vous proposer l'œuvre ultime. Vous voyez, l'œuvre ultime post-2000. Il va vous la proposer un jour.
Mais c'est ça.
Le prochain film, le film d'après. C'est sûr. C'est sûr que ce mec-là, ça va être...
Mais comme tu dis, il a besoin de passer par une phase de fin de cycle et de cassure.
Oui, ouais.
Et je pense que ce film-là va être la fin de cycle. Peut-être qu'il va mettre plus de temps pour le
prochain. Peut-être qu'il va partir sur les grands-pères maintenant.
ou alors refaire un film comme Les Enfants Loups, c'est-à-dire avec une échelle plus modeste.
Ouais, je sais.
Et refaire un truc où il dynamique tout, tu vois. Ouais,
En tout cas, il faut une cassure. Ouais. En tout cas, merci d'être venu pour parler de ça.
Pas de problème.
Ça me fait plaisir. Enfin, bon, maintenant, il faut que je monte ma case. Il faut que je change le temps. Alors, le film sort en début janvier. Si je vous le sors début juillet, c'est bon pour la sortie DVD. Bon, en tout cas, je vous dis à très bientôt, les amis. On se revoit très vite pour un bac anime. Je vous fais plein de bisous. Salut à tous.
Salut.